Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Planète Business. En Afrique, la responsabilité sociétale des entreprises n'est plus un simple slogan. Elle s'impose désormais comme un enjeu stratégique au cœur des modèles économiques. Mais derrière les engagements affichés, une question essentielle se pose. La RSE transforme-t-elle réellement les économies africaines ou reste-t-elle encore un outil de façade porté par des exigences extérieures? Entre pression des investisseurs, défis sociaux majeurs et urgences climatiques, les entreprises africaines sont face à un choix décisif. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui M. Modibo Mao Makalou. Il est économiste. Merci M. Makalou encore une fois de nous faire l'honneur et le plaisir d'être notre invité dans cette émission Planète Business.
Toujours un plaisir d'être avec vous, monsieur Toukara.
Alors, monsieur Makalou, sans plus tarder, la RSE en Afrique crée-t-elle réellement de la valeur économique mesurable ou reste-t-elle encore majoritairement décorrélée plutôt des performances financières des entreprises?
Oui, vous avez entièrement raison. Il est difficile de mesurer exactement la responsabilité sociale des entreprises en Afrique. Mais je pense que inconsciemment, ça a toujours existé en Afrique parce que vous savez, quand on crée l'entreprise, généralement, on a commencé par les entreprises familiales qui incorporent souvent la famille et puis la famille étendue, puis les connaissances, etc. Parce que c'est d'abord une relation de confiance au niveau du secteur privé. Donc, évidemment, de plus en plus maintenant avec l'arrivée des multinationales et des standards internationaux, parce que même l'accès aux financements internationaux peut être assujetti à incorporer la responsabilité sociale des entreprises, RSE, qui est définie d'ailleurs par ailleurs comme une intégration volontaire des préoccupations sociales, économiques et environnementales aux activités commerciales de l'entreprise. Donc, évidemment, il y a une autre problématique, c'est que le secteur privé, il est embryonnaire dans la plupart des États africains et nous avons quand même eu, au début des indépendances, des sociétés et entreprises d'État. Et évidemment, le social a beaucoup joué, c'était bien avant l'avènement de la RSE. Et d'ailleurs, c'est ce qui a amené les programmes d'ajustement structurel parce qu'il fallait créer des emplois de masse pour les populations nouvellement indépendantes.
Dans ce cas de figure également, assiste-t-on à une africanisation de la RSE avec des modèles adaptés aux réalités locales ou plutôt à une simple importation des standards occidentaux, parfois même déconnectés du terrain?
Il faut d'abord regarder la structure du secteur privé africain qui est, si vous prenez les pays d'Afrique au sud du Sahara, le secteur privé africain est en grande partie informel. On estime que 80 à 90% des économies subsahariennes sont informelles. Et évidemment, il y a des cas d'exception pour l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Mais il faut tenir compte aussi des aspects sociaux. Les réalités locales, les spécificités locales doivent être prises en compte parce que je pense que même les multinationales aujourd'hui qui s'implantent en Afrique et aussi, mais aujourd'hui nous avons quand même des entreprises africaines qui sont des multinationales et qui remplacent les multinationales étrangères au continent. Donc cet aspect commence à être incorporé, mais pas autant que les standards internationaux et surtout les standards occidentaux. Parce que je pense que les entreprises en Occident n'ont pas les mêmes vocations que les entreprises privées en Afrique. Donc c'est un peu cela la réalité. Et même à l'intérieur de l'Afrique, je pense que d'un pays à l'autre, les réalités ou les spécificités sociales et locales sont assez différentes.
Et dans des économies marquées par l'informel, comment la RSE peut-elle réellement transformer les chaînes de valeur sans exclure, bien sûr, une grande partie des acteurs économiques?
Oui, mais parce que vous savez, les démarches concernant la RSE doivent, pour une bonne marche, pour la bonne gouvernance et le développement durable, parce que c'est ça l'objectif de la RSE, il s'agit de prendre en compte les spécificités locales. Et ce n'est pas toujours évident pour une entreprise de s'adapter surtout étrangères, de s'adapter aux réalités locales. Mais par contre, les entreprises formelles locales, elles incorporent toujours une dose des réalités sociales. La responsabilité sociale de l'entreprise est toujours mise en avant parce que nous sommes dans le cadre de l'économie circulaire, si l'on peut s'exprimer ainsi. Ça veut dire que c'est quand même le travail, le capital est fourni par les travailleurs et ensuite ceux-ci, avec leur salaire, peuvent acheter des biens et services avec d'autres entreprises, etc. Et donc, généralement, on fait tout pour que, évidemment, il y ait ces amortisseurs sociaux. Parce qu'on ne peut pas, évidemment, la protection sociale, la sécurité sociale est quand même minimale en Afrique. On considère que moins de 10% des travailleurs bénéficient de la sécurité sociale. Mais donc, il faut aller davantage vers une protection sociale. Et cette protection sociale, elle est plutôt innée en Afrique parce que ces amortisseurs sociaux sont toujours en place parce qu'on tient compte des réalités spécifiques locales.
Monsieur Makalou, la RSE, à votre avis, est-elle aujourd'hui un levier de transformation systémique ou seulement un outil de gestion des risques pour les grandes entreprises opérant en Afrique au vu de la situation actuelle?
Oui, je pense que c'est un outil de gestion des risques parce que les réalités des entreprises sont telles qu'aujourd'hui, elles doivent affronter un environnement déjà assez perplexe, assez complexe, je veux dire, parce que, vous savez, avec l'environnement des affaires qui n'est pas toujours favorable aux entreprises, aux entrepreneurs africains, c'est-à-dire l'environnement juridique, judiciaire, le cadre des affaires avec cette bureaucratie ambiante, et donc c'est beaucoup de difficultés. Les coûts des facteurs de production sont assez élevés, ce qui plombe un peu la productivité, la compétitivité des entreprises africaines. Imaginez qu'il vous faut trouver l'accès au financement, ce n'est pas toujours facile. Et qui dit entrepreneur, quand même, veut dire que le capital doit être à moindre coût et à une longue durée assez importante. Et l'assistance aux entreprises elles-mêmes, et de même que les garanties pour accéder au financement, et la main-d'œuvre qualifiée, parce qu'aujourd'hui, évidemment, dans toute entreprise moderne, il faut quand même du personnel qualifié si on veut opérer à l'intérieur de l'Afrique et à l'extérieur de l'Afrique, au niveau des chaînes de valeur régionales et mondiales. Tenez-vous bien, l'Afrique aujourd'hui qui constitue quand même 18% de la population mondiale, mais seulement 3% du commerce mondial. Ça veut dire que nous avons quand même beaucoup de défaillances à corriger. Et surtout par rapport à la formation, le Fonds monétaire a estimé, par exemple, qu'il y a entre 12 et 15 millions de jeunes Africains qui sortent des écoles et des universités chaque année et qu'il n'y a que 3 millions qui trouvent des emplois. Donc, ça veut dire que le secteur formel, il est quand même embryonnaire encore. Il va falloir faire des efforts parce qu'aujourd'hui, le secteur public ne recrute pas beaucoup. Donc, comment améliorer le cadre des affaires? Comment diminuer les contraintes? Parce que si on ajoute encore la RSE aux contraintes difficiles auxquelles font face les entrepreneurs africains, évidemment, ça va être quand même un goulot d'étranglement.
Un boulot qui attend quand même aujourd'hui la sphère de la responsabilité sociétale des entreprises, notamment en Afrique. Je rappelle que nous sommes avec M. Modibo Mao Makalou, qui est un économiste. Et avant de revenir avec lui d'ailleurs, nous allons faire un petit tour de l'actualité RSE. C'est avec votre Minute RSE tout de suite, avant de revenir avec notre invité.
Bienvenue dans votre Minute RSE. Mars 2026 confirme une chose, la RSE change totalement de dimension. À l'échelle mondiale, les investissements durables continuent de progresser avec une croissance qui tourne autour de 20% par an. Mais dans le même temps, les financements dans la green tech ont fortement reculé en 2025, preuve que le marché devient plus exigeant plus sélectif. Aujourd'hui, pour les entreprises, intégrer les critères ESG n'est plus un choix. C'est devenu une condition pour accéder au financement, au marché et même à la confiance des consommateurs. En Afrique, la dynamique est bien réelle. La RSE s'impose progressivement comme un levier de croissance, notamment pour attirer les investisseurs et partenaires internationaux. Sur le terrain, les initiatives se multiplient entre actions sociales, programmes éducatifs, inclusion et avec un accent de plus en plus marqué sur le capital humain. Le défi reste de taille, structurer ces démarches, les rendre mesurables et surtout adaptées aux réalités locales. En clair, la RSE entre dans une nouvelle ère avec moins de promesses et plus de preuves.
De retour dans votre émission Planète Business, toujours pour parler aujourd'hui de la responsabilité sociétale des entreprises, mais aujourd'hui dans un cadre économique. Nous sommes avec M. Modibo Mao Makalou, économiste. M. Makalou d'ailleurs, aujourd'hui, peut-on parler d'un capitalisme africain responsable émergent où la RSE reste-t-elle dépendante des injonctions des bailleurs internationaux et des marchés extérieurs?
Je pense que tout ce qui est... il faut de l'appropriation. Je pense que cette appropriation au niveau de la RSE, elle existe déjà en Afrique. Et je vous l'ai dit, quand vous regardez les compagnies multinationales aujourd'hui, que ce soit dans les télécoms, dans le secteur bancaire, le secteur des assurances, aujourd'hui, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises africaines qui sont créées en Afrique et gérées par des Africains. Donc, obligatoirement, je pense que, et évidemment, il y a une dose de responsabilité sociale qui est incorporée. Mais quand c'est standardisé, et évidemment, pour les multinationales, cela ne pose pas de problème, mais il faut voir les coûts que cela engendre pour un entrepreneur local, parce que vous imaginez nos codes de travail, nos charges patronales, tout ce qui concerne les taxes et les impôts à payer. Donc, sont des coûts assez faramineux qui font que l'entrepreneuriat en Afrique a de la peine à démarrer. Mais ça, c'est surtout pour les petites et moyennes entreprises. Mais alors que c'est de cela que nous avons besoin pour quand même avoir cette prospérité africaine, nous avons besoin des micro-entreprises parce que c'est cela qui va permettre de créer des emplois stables et cela qui va nous permettre aussi de créer de la valeur ajoutée. Et surtout le problème de l'emploi, parce que l'Afrique a une population très jeune, 19 ans, mais il faut quand même que ce défi démographique, qu'on le transforme en dividende démographique. Donc il faut que l'entreprise soit là, l'entrepreneur puisse recruter, mais que surtout des emplois stables, des emplois décents et des emplois durables.
Les emplois durables, aujourd'hui, la réalité est telle qu'elle, qu'en Afrique aujourd'hui, une nouvelle vague d'orientation, comme vous venez de le dire, et surtout dans la durabilité, est en train de s'inscrire dans la majeure partie des pays africains. Aujourd'hui, les entreprises africaines, d'ailleurs, utilisent-elles, selon vous, la RSE pour corriger les défaillances des politiques publiques? Ou si oui, bien évidemment, cela ne crée-t-il pas un déséquilibre dangereux entre secteur privé et État?
Mais écoutez, l'État ne recrute pratiquement plus dans la plupart des pays africains. Comme je l'ai dit, c'est le secteur privé formel qui est en train de se développer. Et il faut tenir compte du fait que aujourd'hui, les emplois sont en grande partie des emplois informels en Afrique au sud du Sahara. Et le manque d'industrialisation, parce que je l'ai dit, l'Afrique est le continent le moins industrialisé au monde. Mais je pense qu'à travers la zone de libre-échange continentale, les Africains sont en train d'établir des standards pour eux-mêmes, parce que l'idée, c'est de créer un marché intérieur de 1,5 milliard de personnes et de baisser les barrières tarifaires et non tarifaires de plus de 90% sur 5 ans et de plus de 95% sur 10 ans. Donc ce sont des objectifs qui sont assignés à l'ensemble des 54 États qui sont membres de l'Union africaine. Il s'agit de faire baisser les coûts de transaction, parce qu'on s'est rendu compte quand même que le commerce intra-africain est quand même toujours à 15%, moins de 20%, alors qu'en Europe, il est au-delà de 60%, et en Amérique du Nord, il est au-delà de 105%, en Asie, il est au-delà de 60%. Et on s'est rendu compte, les Africains le savent, que c'est l'Union qui fait la force, et que c'est en commerçant entre nous, Africains, à l'intérieur de ce marché que nous allons créer, que nous allons créer de la valeur ajoutée. Parce que quand les Africains commercent entre eux, ils créent des produits semi-finis et finis, ils créent de la valeur ajoutée, les revenus augmentent pour l'ensemble des acteurs et aussi on crée des emplois.
On crée des emplois.
Voilà la solution. Voilà, donc à travers la zone de libre-échange continentale, évidemment, il y a des standards parce qu'il y a non seulement la modernisation, il y a de la rigueur. L'idée, c'est d'aller vers la bonne gouvernance, c'est-à-dire comment nous administrons, comment nous gérons nos entreprises, mais aussi de tenir compte des impératifs concernant le développement durable. C'est aussi le développement humain, mais aussi la bonne gestion de l'environnement.
Et juste...
Parce que, l'Afrique est quand même le continent qui pollue le moins, mais évidemment, on n'est pas logé à la même enseigne que ceux qui polluent le plus.
Et justement, à l'horizon 2030, la RSE en Afrique sera-t-elle, selon vous, un facteur de compétitivité globale ou simplement un filtre d'exclusion pour les entreprises qui n'auront pas les moyens de s'y conformer?
Oui, je pense que ce sera un filtre parce que c'est cette compétitivité qui, ces standards internationaux basés sur la RSE, mais quelles sont, est-ce que ces valeurs sont universelles? Est-ce qu'on tient compte de ce qui se fait en Afrique par rapport au niveau des entreprises? Quelles sont les contraintes auxquelles font face les entreprises? Il faut toujours tenir compte de cela. En Afrique, on n'opère pas de la même manière qu'en Europe ou aux États-Unis ou en Asie. Il faut s'adapter au contexte local. Et la RSE peut être un facteur de blocage dans ce sens-là. Je pense qu'il faut... des standards, mais il faut que ces standards soient souples. Et il faut voir les réalités locales pour voir est-ce que les objectifs sont atteints. Mais en voulant imposer des standards internationaux universels, je pense que cela va créer quand même beaucoup d'inconvénients pour les entrepreneurs africains, pour les entreprises privées africaines.
Et ce qui est sûr, c'est que la RSE est appelée à devenir un véritable levier de transformation économique, sociale et environnementale. Mais pour cela, un défi majeur reste à relever, adapter ses modèles aux réalités africaines, sans dépendre uniquement des standards importés. Merci encore à vous, M. Modibo Mao-Makalou, pour cet éclairage.
C'est moi qui vous remercie, M. Toukara.
Et je rappelle donc que vous êtes économiste. C'était votre émission Planète Business. C'est fini pour aujourd'hui, mais le débat, lui, ne fait que commencer. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission Planète Business.